Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait beau temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Souffaut.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Bonjour et bienvenue dans Prosopopée, une émission un peu spéciale puisque j'ai pris de la hauteur, je suis entre le Tarnon et la Mimente. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Mais surtout, salut à toi, Corona. Aujourd'hui, cher virus, tu vas rester bien tranquille et écouter les histoires de notre pays. Tu commences à vouloir prendre de l'ampleur. Je vais te parler des monstres qui peuplent nos Cévennes. Tu veux te la jouer façon virus nucléaire? Attends, attends, mon jeune ami. Tu n'as pas encore rencontré le drac, le grippet ou encore Gargantua qui t'engloutirait d'un seul coup. Pour respecter le confinement, je me suis échappée par des chemins dérobés, connus par les contrebandiers et les camisards. Derrière le rocher des Fées, j'ai pris un sentier que j'ai abandonné pour suivre un temps la draille de la Margeride. Au-dessus du plateau, c'est grand, c'est beau, puissant même. Ça nous rappelle pourquoi nous habitons dans ce pays de pierrailles, déjà en isolement du reste du monde. On surplombe toutes les vallées. Au loin, le Sauveterre, les Pouèches, on tutoie le Méjean. Le Bouget, c'est à vol d'oiseau. On respire. Alors vas-y, Corona, hein, parce que ça grimpe. Hein. Faut avoir les genoux bien accrochés. Et au-dessus, sur le paradis, lieu de résistance camisarde, j'ai pensé à une personne qui réside tout en bas à la salle Prunet, que l'on devine à peine. Là-bas, tout petit par la distance qui nous sépare, mais gigantesque par son œuvre. Perché sur les hauteurs des Cévennes, je veux rendre un brillant hommage à Roger Lagrave. Roger Lagrave, conteur d'oiseaux, passeur d'histoires et dénicheur de secrets. Roger Lagrave, 97 ans. Vous, vous vous demandez et paniquez à l'idée d'être confiné sans occupation. Attention à l'orthographe tout de même. L'occupation, nos grands-parents l'ont connue. Et laissez-moi vous dire que c'était nettement moins sympathique. Nous, nous devons trouver des occupations. Et je pense que ça devrait le faire. Alors redécouvrez ou surtout découvrez celui qui décrit si bien notre région. Détachez-vous de vos écrans. Entre nous, il n'y a pas que les séries dans la vie. Cette émission ressemble un peu à l'appel du général de Gaulle, sauf que je n'aime pas les gradés. J'aime juste prendre de la hauteur pour mieux réfléchir. Je m'adresse aujourd'hui à tous les Cévenols, néo, ruraux, parisiens et citadins en fuite. À tout le monde en quelque sorte. Laissez-vous embarquer par son imagination. Ah non, pardonnez-moi, il m'a dit que tout était vrai. Et vous savez quoi? Je le crois. Il doit se passer tellement de choses dans nos paysages fantastiques. Je suis le conteur. Conteur de loups, conteur de drailles et de randonnées, conteur de mon jardin, conteur de châtaignes et de châtaigniers. Je suis le conteur. Je suis le conteur qui, au coin de la cheminée des soirs d'hiver comme autrefois, va vous conter notre pays, la Lozère. Je vous conte et raconte, mais ne croyez pas que j'invente. Sur mes jambes, j'ai suivi les drailles à travers le Gévaudan, écoutant les bergers rassemblés autour du feu et racontant leur transhumance. J'ai arpenté la longue crête du mont Lozère en reliant les croix de Malte gravées dans les bornes en granit, limitant l'antique commanderie des chevaliers. Aux environs de Sèvrette, j'ai rôdé autour des tombes que les fades ont creusées dans le grès. Sur mes jambes, j'ai traversé par le chemin des loups, loubières et loubatières. J'ai dévalé les pentes du Causse sur les chemins de la farine qui conduisent au moulin des bords du Tarn ou de la Jonte. J'ai remonté vers les sources des fleuves qui prennent leur élan chez nous, Allier, Tarn, Truyère et Chassezac. Sur mes jambes, j'ai mis mes pas dans ceux des pèlerins en route vers Saint-Jacques ou Saint-Gilles. J'ai refait l'itinéraire de Stevenson lorsqu'il vint parcourir les Cévennes en compagnie de Modestine. J'ai cheminé dans le rang des croisés, traversant le Gévaudan en route pour Jérusalem, dans le rang des soldats venus nous délivrer des mercenaires devenus brigands, des maquisards en route clandestine vers la parade pour s'y faire tuer. Sur mes pieds, j'ai gravi les pentes du Bougès, du Roc de Fenestre, du Signal des Lobbies et du Ventalon.
J'ai bu l'eau de la vasque que les anciens ont creusée dans le rocher de granit. À pleine poignée, j'ai mangé les érelles des bords de la draille, les mûres et les framboises. Et c'est tout cela que je vous conte, assorti à ma manière, qui est celle du conteur. Une pleine poignée de vérité, une pincée d'imagination. Mythologie ou science ? Les sciences ont souvent leurs explications. La réponse mythologique est éternelle. Je ne suis pas l'historien qui, sans sortir de sa bibliothèque, cherche la vérité dans les papiers anciens. Je ne suis pas le professeur qui a découvert l'explication vraie et vous la livre prête à croire. Je suis le conteur. Je suis l'habitant au kilomètre carré. Mon kilomètre à moi, il est sur le Causse où il y a beaucoup de pierres avec du vent et des moutons. Mais j'ai des collègues qui sont dans les Cévennes avec les châtaigniers et les chèvres, et d'autres qui se trouvent dans les forêts de l'Aigoual ou de la Margeride, parmi les genêts du Mont Lozère. Moi, je suis sur ce géant de pierres. Vivre sur son kilomètre carré, c'est facile, me direz-vous. Il suffit de s'y tenir, loin des embarras de la ville. Oui, mais l'hiver, c'est le froid, la neige, le vent qui passe à travers l'épaisseur des tricots. L'été, c'est la canicule, surtout pour moi, sur mon Causse pelé et chauffé comme une poêle à frire. On ne vous voit pas souvent, me direz-vous encore. C'est qu'un kilomètre carré, c'est grand tout de même. Et puis, il y a quatre coins. Et c'est que quand je suis dans un coin, que vous, vous êtes dans l'autre. De sorte que c'est bien vrai, nous ne nous rencontrons pas souvent. Cependant, l'été, le public est nombreux. Ce sont les randonneurs qui traversent le Causse en suivant les chemins balisés. Ceux-là, je les aime bien, avec leurs chaussettes rouges, leurs sacs à dos gonflés. Et ils ont souvent soif. Alors je leur indique le puits caché qui garde l'eau fraîche et que je suis seule à connaître. Mais ceux que je vois arriver sans plaisir, ce sont les touristes en voiture. Ils dérangent la vie des pierres dans un vrombissement de fumée. Ils vont jusqu'à quitter la route, à venir jusqu'à moi en voiture, et sans souci de la pierraille. Et je te photographie sous le nez, et je te pose des questions. Vous ne vous ennuyez pas trop? L'hiver, comment ça se passe? Pourquoi n'écoutez-vous pas la radio pendant que vous ne faites rien? Parce que pour eux, garder le mouton, c'est ne rien faire. Je leur réponds de mon mieux, mais ils n'ont pas le temps de m'écouter. Clic-clac, les images dans la boîte, et les voilà repartis vers leur kilomètre carré à eux, où ils sont, m'a-t-on dit, jusqu'à 20 000, 30 000 sur le même, à jouer des coudes et à se marcher sur les pieds. Heureusement, ça ne dure que l'été. Dès les premiers coups de froid, je me retrouve l'habitant au kilomètre carré sur mon kilomètre de désert de pierre. Il n'y a pas longtemps, nous avons formé un syndicat, la Confédération Générale des Habitants au Kilomètre Carré, la CGHK2. Le secrétaire général est de Haute-Provence, le trésorier des Corbières. Nous demandons la retraite à 45 ans, ça use la solitude. Double salaire pour les jours de grand brouillard, une prime de risque au sujet des chiens touristiques de plus en plus hargneux. Mais la revendication qui m'intéresse le plus, c'est la féminisation de la profession. Pourquoi faut-il que l'habitant au kilomètre carré soit toujours un homme? Si sur le kilomètre à côté du mien, il y avait une femme, une habitante, j'irais lui faire la conversation, nous discuterions de nos problèmes. Et qui sait, peut-être finirions-nous par faire ensemble des petits habitants au kilomètre carré. Mais ces demandes ne sont guère entendues. Ceux qui nous gouvernent sont à Paris dans des bureaux bien chauffés et n'ont guère le loisir de venir nous rendre visite. Nos kilomètres sont si éloignés des routes à voiture, sur des pierres si pentues, si désolées, si venteuses, si couvertes d'ajoncs, de genêts, de ronces. un jour, si vous ne nous trouvez plus sur nos kilomètres de Larzac, d'Aubrac, de Verdon, de Basses-Alpes, de Limousin, de Bretagne-Intérieure, de Sologne, de Camargue, de Quercy, de Dordogne, de Luberon, de Vendée, de Combrailles, c'est que nous serons en grève. Ou peut-être morts sur notre dernière pierre, sur nos terres où vous ne trouverez plus que des épines fermant notre chemin. C'était le temps des lanternaires, quand on allumait la lanterne ou le falot pour aller sur les chemins la nuit tombée vers la maison. Le feu dans la cheminée, le temps de la veillée. La veillée chez les voisins ou les connaissances plus lointaines, ça n'était plus pour carder ou filer la laine, pour casser les noix ou éplucher les châtaignes. Ça n'était plus pour économiser le pétrole de la lampe, car l'électricité arrivait peu à peu dans nos fermes. C'était pour se retrouver entre amis et connaissances, pour passer ensemble les longues soirées d'hiver, bavarder entre femmes de la vie du village, pour jouer à la belote entre hommes, pour ne pas s'ennuyer. Des anciennes vallées, on avait gardé le feu pour la compagnie des flammes, dont la danse était le long interlude de notre télévision d'alors. On avait aussi gardé l'habitude de chanter et de danser, car nous aimions bien les chansons du pays. Chacun avait la sienne, un répertoire souvent bien fourni. Chacun avait sa chanson particulière qu'il était le seul à détailler et qu'on lui faisait chanter à toute occasion. « Casimir, chante-nous l'os d'Alaers !» Et Casimir chantait l'os d'Alaers. Souvent, les demoiselles chantaient un regret. En Gévaudan, le regret est une mélodie lente et triste que le cabretaire joue dans les veillées ou dans les moments de solitude. Le texte raconte souvent une histoire naïve et dramatiquement sentimentale. Il y avait également la Marseillaise des fermes lozériennes, le Turlututu. C'est au cours de l'une de ces veillées, vers 1930, qu'eut lieu l'événement que je voudrais vous conter. Nous étions donc à la veillée, comme à l'habitude. Les hommes avaient terminé leur partie de cartes. La marinette avait lu quelques pages du moniteur de la Lozère. Les petits étaient allés se coucher. La maîtresse de maison venait de faire chauffer un dernier café lorsque le Clément, le maître des séants, dit « J'ai une surprise à vous faire ». Et il découvrit, posé sur la table, un ensemble d'appareils que nous n'avions jamais vus. C'est la TSF, on me l'a apporté de Mende. Il tourna un bouton et, à l'étonnement général, une voix sortit de cet assemblage de boîtes et de fils. Une dame chantait dans la TSF, une chanson qui nous était inconnue. Bougre, qu'elle chantait bien la dame, les femmes en pleurèrent. Depuis ce soir-là, les veillées se passèrent à écouter les chansons de la TSF. Celui que nous écoutions sans nous lasser, c'était Tino Rossi, avec sa voix de velours pour chanter une corse de soleil et de guitare. Hein, voulez-vous chanter le Turlututu après la chanson de Tino sans vous sentir ridicule ? Casimir monta à l'os d'Alaers et tout le folklore au grenier. Les gars de la montagne restèrent chez eux. Les jeunes filles rangèrent leurs regrets dans le tiroir de la commode avec les vieilles cartes postales. Déjà, la guerre de 14 avait fauché largement notre folklore resté par pans entiers sur les champs de bataille et les tranchées de Verdun. À l'école, plus question de chanter nos chansons souvent en patois. Les instituteurs nous firent croire qu'elles étaient l'image de notre ignorance et de notre rudesse paysanne. La TSF apportait le dernier coup. Devant accordéon et guitare, cabrette et vielle battirent en retraite. Les hautbois sévenols passèrent au feu. Les papiers à chansons finirent sur le tas de fumier. Finis les carnets à poèmes et maximes que chacun portait contre son cœur. La chanson lozérienne était morte, place aux chanteurs professionnels. Longtemps après son décès, des ethnologues venus des villes furent payés pour la ressusciter en la mettant dans des livres. Le grand déménagement de nos Cévennes était déjà entrepris. Nos hameaux se mouraient, nos masses se vidaient. Cependant, celui du Villaret gardait un peu de vie. Madame Adjé, malgré son âge et quoique veuve, restait dans ses murs avec ses chèvres et ses poules. Accroché aux pentes de la vallée française, le Villaret était bien loin de Sainte-Croix, du Pompidou ou de Bar des Cévennes. Et Madame Adjé passait ses jours bien seule entre le pot de café toujours au bord des braises de la cheminée et son troupeau de quelques chèvres. L'été, ma foi, ses enfants venaient pour leur congé de l'usine. Mais l'hiver, les jours étaient bien longs à passer. Alors Madame Adjé allait veiller. En ces temps-là, d'un mas à l'autre, on s'invitait pour les veillées d'hiver. Malgré son âge, dès le jour tombé et la soupe avalée, elle prenait le sentier rocailleux pour le mas où une place sur l'archiban lui était réservée. C'est la banquette de bois placée à côté de la cheminée où prennent place les anciens. À travers vallas et ruisseaux, il y avait bien le long chemin à faire sur la pente déserte. Mais pour la chaleur du feu de bois et celle au fond des cœurs, pour la joie de se retrouver entre amis à se raconter la vie d'autrefois, pour la poêlée de châtaigne grillée et le verre de piquette, et surtout, pour ne pas rester seule, Madame Adjé serait allée jusqu'au fond des Cévennes. Pendant qu'elle marchait, pour aller pour revenir sur des sentiers qu'éclairait à peine un rayon de lune, elle aurait pu avoir peur. Mais non, un animal, sans doute un chien abandonné et sorti d'on ne sait où, la suivait de quelques mètres. Elle voyait ses yeux qui luisaient dans la clarté de la lune. Quelquefois, elle sentait le souffle chaud de sa gueule sur ses mollets. De temps en temps, la bête gémissait comme pour dire son amitié. Et cette présence rassurait Madame Adjé. Elle se sentait moins seule et marchait sans avoir peur vers les veillées amicales. Aux abords du mas, l'animal disparaissait. Mais au bout de la nuit, lorsque les calèles, cette lampe des Cévennes dont la mèche trempée dans l'huile de noix s'éteignait, la bête était là pour faire elle aussi le chemin du retour. Madame Adjé racontait à chaque veillée l'histoire de sa bête amicale. Au printemps, alors que les beaux jours revenaient et comme cesse brusquement l'hiver dans notre région, Madame Adjé mourut. Ses voisins et amis l'enterrèrent à côté de celui qui était parti avant elle, qui reposait sous le cyprès près du mas. Nous étions autour du tertre remués à dire les dernières prières lorsqu'un animal s'approcha de notre groupe, flaira la terre et gémit comme un long regret. « Le chien de la nuit, celui qui la suivait lorsqu'elle venait veiller !» Alors, à son poil fauve, à ses oreilles dressées et à ses fortes mâchoires, l'on vit que la bête des clairs de lune était un loup. Dans une sorte de grand sanglot, il s'éloigna vers les crêtes. Et depuis ce jour, on n'entendit plus parler du chien de Madame Adjé. Tout à coup, il y eut un grand bruit dans le village. « Hier, à la nuit, en revenant de la foire, ils ont vu la trêve !» L'Antoine, le Jacques et le lièvre. La trêve, c'est le fantôme qui va, tirant sa robe blanche, par les nuits de pleine lune, effrayant le promeneur attardé. « Je vous dis que ce n'est pas la trêve, a dit l'Antoine. C'est la roumèque, diable. Je l'ai bien reconnue, avec ses longs bras maigres et griffus. » Lorsque la lune s'est montrée entre deux nuages, elle a allongé son bras et de ses griffes m'a pris mon bonnet. Le mien, c'est le grippet qui me l'a pris. Je le connais bien, celui-là. Il va toujours se remuant, se secouant comme s'il avait des puces. Il s'est agité un bon coup et hop, mon bonnet en l'air. C'est le grippet, je vous dis. Et moi, je vous dis que c'était l'enfant du drac, le draquet, toujours à chercher à faire des misères aux pauvres gens. Je l'ai bien vu dansant sur des jambes maigres, toutes couvertes d'épines. Et la dispute enfla, les uns criant au grippet et les autres à la roumèque. Tout le village fut bientôt en remue-ménage à cause qu'on ne savait pas du draquet ou du grippet. Une chose était sûre, les bonnets de nos compères avaient bien disparu. Pendant qu'à l'auberge, notre monde disputait à grands coups de gosier et de tasses de vin, mon oncle décida d'éclaircir le mystère. Il prit le chemin qu'avaient suivi nos trois mireurs de sorcières. Et bientôt, que vit-il suspendu à l'arceau d'une ronce, enjambant le chemin ? Les trois bonnets, côte à côte, agrippés aux épines de la branche. Le grippet, le draquet, la roumèque n'avaient existé que dans l'imagination de nos traîneurs de foire. Mon oncle ne raconta pas sa découverte. N'aurait-il pas rendu un mauvais service aux parents? Sans le grippet, comment les enfants mangeraient-ils leur soupe? Et sans la roumèque, pourquoi resteraient-ils tranquilles à la maison après le soir? Ce soir d'hiver, nous étions assemblés autour du feu pour la veillée habituelle. Cardage, filage et babillage, tout le monde s'occupait des mains et de la langue. Pour occuper les yeux, deux bûches flambaient dans l'âtre. C'est lorsque la minuit sonna la vieille pendule que la chose eut lieu. Vous ne voudrez sans doute pas me croire, mais voilà que l'Antoine se leva de sa chaise, s'avança vers le feu, il sembla comme attiré vers le haut de la cheminée. Déjà ses pieds ne touchaient plus terre. Malgré les flammes, il était soulevé sans bruit, lentement par une force à laquelle il ne résistait pas. C'est lorsque ses pieds furent au-dessus des flammes que les sabots tombèrent dans le feu. C'est alors que sa femme, laissant tomber sa quenouille, retira de son doigt l'anneau de mariage et le passa à l'un des orteils de son homme. L'Antoine retomba de tout son poids sur le feu, faisant gicler les braises dans toute la cuisine. « C'est elle grippée, » dit alors l'ancien. Il a voulu l'emporter, l'Antoine, dans l'enfer où il habite. Mais la bénédiction de l'anneau l'en a empêché. Je les ai tous rencontrés, un jour ou l'autre, une nuit, quelquefois dans le vent du Causse ou dans la lune de la montagne. Tous. Le grippet, le drac, la roumec, le juif errant, Mélusine, et le plus gros de tous, Gargantua. Celui-là, c'est un géant gaulois. Il porte des grosses moustaches et des sabots. Ce jour-là, il quittait son village du haut des Bondons et s'en allait labourer les champs sur le Causse-Méjean. Il avait plu toute la journée et la terre calcaire dans les dolines n'était que de la boue. Lorsqu'il revint le soir, ses sabots étaient lourds de cette boue causse-narde. Il prit un bâton ou tout simplement un grand chêne qui poussait par là. Il cura son sabot, puis l'autre. Et il se forma deux buttes que l'on voit côte à côte et bizarrement semblables et que nous appelons les pouèches des Bondons ou encore les sabots de Gargantua. Le drac. Celui-là, je l'ai eu sur le dos toute une après-midi. Je montais la draille qui passe au col de Jalcrest, grimpe jusqu'au sommet du Ventalon pour dévaler majestueusement sur le mont Lozère où estivent les transhumants. Mon sac pesait et au fur et à mesure que je montais par cette sacrée draille, il pesait de plus en plus. Ma parole, c'était des pierres. Le soleil qui cognait tant qu'il pouvait, la pente vraiment raide, le sac de plus en plus lourd, je fondais en sueur. Et une douleur piquait mes reins. Mais il fallait continuer. Et au sommet, lorsque j'ai posé le sac sur le cairn, j'ai entendu son rire de caillou roulant sur la pente, son gros rire de drac, bête et méchant, heureux d'avoir ennuyé celui qui ose cheminer dans son royaume montagneux. Car c'était lui que j'avais transporté assis sur mon sac et pesant de tout son poids de pieds fourchus, d'ailes de vampire, de bec crochu, de crâne pointu. Après une pause, un quignon de pain avec du fromage à la dévalade vers la croix de Bertel, le sac était redevenu ce qu'il était. Le drac planait sur les Cévennes à la recherche d'un intrus pour en faire sa victime. Avec Mélusine, les rencontres sont plus agréables. Elle, je la rencontre dans les eaux du Tarnon, de la Mimente, lorsque je m'y baigne par les soirs d'été. Ses cheveux flottent dans les gourds. Entre mes mains, je peux prendre son corps de femme poisson, caresser son ventre et ses seins qui sont verts comme l'eau dessous les arbres. Ce ventre rond avec un nombril profond, je peux toucher les écailles qui lui couvrent le corps. J'ai vu les petits éclats de lumière qu'elles font sur le clair de lune. Nous ne parlons pas, elle de l'eau et moi de l'air. Que nous dirions-nous? Que l'eau est fraîche et que la lune est blonde? Ce sont nos mains qui ont la parole, à dire la tendresse entre nous. Au milieu de la nuit, un battement de son corps de poisson et elle disparaît dans l'eau profonde, au fond d'une cave où je ne peux aller. Alors, sur la plage de sable, au bord de la rivière, je dors d'un sommeil de longs cheveux, de ventre lisse, de bouche fraîche, de rayons de lune. Pour le juif errant, si vous le rencontrez, il ne faut pas avoir peur de cheminer sur nos causses à l'entrée de l'hiver, lorsque le vent emporte la dernière feuille, lorsque le brouillard engloutit pouèche et doline, lorsque brusquement tombe la nuit. Ce soir-là, j'étais assis sur les marches du piédestal d'une croix de pierre, au bord de l'un de ces chemins. J'ai d'abord entendu le bruit de ses sandales. Il y a longtemps que je désirais le rencontrer. Il a posé sa besace près de mon sac à dos, et c'est alors que j'ai vu la broussaille de sa grande barbe mêlée au brouillard, ses yeux noirs dans les orbites trouant la peau et l'os de son visage maigre. « Je n'en peux plus, me dit-il, ce chemin n'en finit pas. Voilà que je marche depuis des siècles sans trouver le repos. Mais bientôt il reviendra. Alors s'achèveront mon tourment et ma route, il reviendra. Alors les hommes connaîtront une vie d'amour dans une nature retrouvée. Mais en attendant sa venue, il ne faut pas que je m'interrompe. Au revoir, mon bon monsieur. » Et le vieillard ayant repris sa besace et son bâton disparut dans ce brouillard de ce début d'hiver. Je ne l'ai pas revu. Mais puisque Jésus-Christ n'est pas encore revenu, je suppose qu'il continue son chemin interminable. Je vous le dis, je les ai tous rencontrés. Bonjour la compagnie. Ils sont tous mes amis, je les rencontre lorsque je vais par Drais et voir Omen. Nous nous contons nos aventures. Et même lorsque je suis seule sur le chemin, en vérité, ils sont tous là, troupe invisible et fidèle. Et bonsoir la compagnie. En Cévennes, l'idéus, c'est celui qui a une idée. Mais tout le monde en a des idées. Justement, l'idéus, lui, n'en a qu'une. Une idée bien particulière. Une idée qu'il n'a pas trouvée dans les livres, qu'il n'a pas entendue à la radio ou à la télévision, qu'il n'a pas rencontrée au bistrot où l'on brasse beaucoup pourtant. Non, son idée, elle lui est venue on ne sait comment. Il n'en sait rien lui-même. Peut-être par un midi du mois d'août, lorsque ça cogne dur, ou apporté par un rayon de soleil plus brillant que les autres. En tout cas, elle est là, dans sa tête, à occuper tout le crâne jusqu'à ce qu'elle y soit seule. Alors, elle commande à l'homme et l'homme lui obéit, même si les actes qu'elle inspire sont bizarres. Notre homme est devenu un idéus. On peut aussi dire un imaginaire, un flori. Dans les Cévennes, si vous vous promenez parmi Serre et Valla, vous en trouverez plus d'un, car nous sommes au pays des idéus. Nous qui avons parcouru ces montagnes, nous en avons rencontré quelques-uns. Voici l'histoire de celui qui voulait voir la mer. L'histoire a commencé du côté de Fraissinet-de-Fourques, entre Méjean et Aigoual, lorsque le fils Gustave revint de son service militaire. Il l'avait fait en Algérie. Durant 2 années, barda sur le dos, à la poursuite d'Abdelkader et ses mamelouks, d'un douar à l'autre, il avait parcouru les longues pistes du Sahel, les hauts plateaux kabyles, les premières limites du Sahara. Il avait sué sang et eau sous les soleils du Maghreb. Et puis, comme si de rien n'était, il s'en était revenu à Fraissinet-de-Fourques, où était sa maison natale et sa famille. Un enfant du pays qui revient d'Afrique, qui a vu des chameaux et des palmiers, des moukers dans leur casbah. Pensez donc, Gustave fut de toutes les veillées qui se tinrent cette année-là dans le village du Tarnon, depuis le col de Perjuret jusqu'à Croupillac. Il y allait avec plaisir et chaque fois c'était la même question. « Gustave, toi qui allais là-bas, raconte-nous l'Afrique. » Et sans se faire prier, entre 2 grillées de châtaigne, le verre de piquette à la main, Gustave racontait son voyage. Mais de tout ce qu'il avait vu, les femmes sous leur voile blanc, les singes dans les gorges de la Chifa, les canons sur les remparts d'Alger, les mosquées, les couleurs des épices, il ne parlait que d'une chose, la mer. C'est qu'il avait pris le grand bateau à Marseille. De l'eau sans cesse, de l'eau tout autour et durant plusieurs jours. Pour Gustave, qui avait passé sa jeunesse à regarder couler le modeste Tarnon, souvent à sec par les étés, c'est vrai que tant d'eau d'un seul coup avait de quoi étonner. Il y en a tant que ça, plus que le Causse, plus que l'Aigoual, plus que le Causse et l'Aigoual ensemble. Alors Gustave racontait les vagues, l'une chassant l'autre sans cesse, la nuit comme le jour, sans repos. Il racontait le soleil qui s'engloutit le soir dans une eau de sang. Dans le fond noir de la cuisine, ouvrant des yeux comme des écuelles, le plus étonné de tous était Jeantet, le berger du village. Comme hypnotisé, il buvait les paroles de Gustave. Quelquefois, en montant sur le Causse par la draille avec ses moutons, il avait vu les grands espaces déserts ondulés par des vagues immobiles. Mais ce n'était pas la mer, sans cesse agitée, que racontait Gustave. La mer, allait-il vivre sans jamais la voir? Peut-on vivre si l'on n'a pas vu la mer? Mais peut-on aller voir la mer lorsqu'on est le berger de Fraissinet-de-Fourques? Il faudrait prendre des diligences, voyager pendant plusieurs jours avant d'y arriver. Et les brebis alors, qui les sortiraient? Pourtant, d'une veillée à l'autre, le désir grandissait si gros que sa tête allait éclater. Moi aussi, je verrai la mer. Personne ne prit garde à la réflexion de Jeantet, que l'on pensait un peu fou. Le lendemain, comme en son habitude, Jeantet quitta le village derrière son petit troupeau. Il prit le chemin vers la crête. Sur la hauteur dégagée que les rochers de schiste hérissent de partout, il parcourut la montagne, sautant comme une chèvre des Cévennes, tandis que broutaient les brebis. Il choisit un promontoire penché dans le vide. C'est sur cette plateforme rocheuse, déjà près du ciel, qu'il va élever sa construction. Pour commencer, il lui fallut les matériaux, les pavés de schiste qui, heureusement, ne manquaient pas en cet endroit. Le lendemain, il travailla sans arrêt toute la journée, arrachant les pierres, les transportant, les ajustant une à une. À la fin de la journée, un cylindre de pierre, un commencement de tour, s'élevait vers le ciel. Quelques jours après, un bon maître de tour se dressait sur le piédestal. À la fin du mois, l'œuvre de pierre sombre, ajustée avec l'exactitude, s'élevait à plus de 2 mètres. C'est alors qu'en bas, à Fraissinet, les gens s'aperçurent de ce qui se passait en haut et qui n'était pas normal. On s'assembla sur la place du village. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Jean-Tef est pâturé par là-haut. Il aura vu la chose de près, il nous le racontera. Et l'on attendit le soir, lorsque la nuit tomba. Ils furent nombreux dans la grand-rue à attendre Jean-Tef derrière son troupeau. Jean-Tef fut bien obligé de dire que c'était lui qui construisait cette bizarre tour. Cela n'étonnait pas tellement l'assemblée, car les bergers du Caux, souvent pour remplir leurs heures de garde, qui sont nombreuses et longues, entassent des pierres et lèvent des cairns, que l'on appelle dans le pays des bolasses. On peut en voir quelques-unes sur le rebord du Caux-Méjean. Souvent célibataires et sans enfants, c'était une façon à eux de laisser le souvenir de leur passage dans le paysage. Cependant, la tour prenait chaque jour un peu plus de hauteur, avec une échelle de pierre pour monter au sommet. On fut de plus en plus intrigués. « Pourquoi fais-tu donc une si haute tour ?»« C'est que je veux voir la mer. » Dans nos campagnes, on sait bien qu'il ne faut pas contrarier les innocents. En réponse au projet farfelu du berger, on se contenta d'un petit sourire. Cependant, dans les maisons, les langues allaient bon train. « Jean-Tef qui veut voir la mer !»« Jean-Tef qui construit cette chose en pierre pour voir la mer !»« Mais c'est un idéus, c'est un uluberlu !» Sur la crête, je vais construire une tour aussi haute que celle de Babylone, plus haute que l'Igual. Haut de mes pierres, je verrai la mer. Et chaque jour, la tour s'éleva d'une coudée. Le soir, à la rentrée du troupeau, les gens qui prenaient le frais de l'air sur le devant de leur maison interrogeaient le berger. Hé, Jean-Tef, quand verras-tu la mer ? Demain, sans doute. Et le lendemain, il continuait, accumulant les pierres, les ajustant avec art, et levant sa tour avec acharnement. Mais le soir, c'était toujours pour demain. Et soir après soir, la moquerie s'ajouta au scepticisme. Jean-Tef passait la tête haute, sans voir personne, sourd à la moquerie, tenant son bâton de berger comme un sceptre. « Oui, demain je verrai la mer, » murmura-t-il entre ses dents. Ce midi-là, nous étions à la soupe, lorsqu'un grand fracas emplit la vallée répercutée dans les falaises du Caux, repris en écho par les pentes voisines. On sortit des maisons, la serviette à la main, certains s'essuyant encore les moustaches. On leva les regards vers la crête d'où était venu le grand bruit. Sur son promontoire, la tour était à demi écroulée. Hommes et femmes, le village tout entier avec les enfants, nous prîmes le chemin vers le haut. Une longue procession qui allait sur la pente parmi les châtaigniers vers la crête. Nous y voici. La tour, en effet, s'était écroulée. Et sous la coulée de pierre, il y avait Jean-Tef. On s'affaira pour le dégager. Trop tard. Une grosse lose lui avait défoncé la poitrine d'où son âme avait fui. Dans le grand silence que nous gardions, la voix d'un enfant se fit entendre. « Regardez, il a vu la mer !» En effet, tout son visage le disait aussi, avant que tout ne s'écroule dans une rude avalanche de schiste sombre, du haut de sa tour, fruit de ses mains et de sa patience, de son obstination à changer sa vie. C'était certain, notre Jean-Tef avait vu la mer. Elle lui avait donné ce visage heureux. Des idéus dans ce genre, nous en avons trouvé dans l'histoire de ce pays. Ceux qui voulaient vivre libres et sans rien demander à personne du lait de quelques chèvres. Ceux qui combattaient avec des faux et des vieux fusils contre les soldats du plus grand des rois parce qu'on avait touché à leur conscience. Ceux qui croyaient à la libération de leur patrie alors qu'elle était écrasée sous la botte de la plus puissante des armées. Nous en avons trouvé aujourd'hui des bien vivants. Celui qui veut faire de la musique parmi les arbres et les ruisseaux. Celui qui, venant de la ville, veut vivre dans la ferme isolée en faisant son pain. Celui qui s'intéresse aux chansons des anciens en disant qu'elles valent bien celles du transistor. Celui qui veut faire une école où on apprendrait en faisant de ses mains. Ceux qui croient que les Cévennes ne vont pas crever. Et d'autres qui viendront plus tard, car nous sommes au pays des idéus. Des idéus dont on se moque d'abord jusqu'à ce que leur idée devienne celle de tout le monde. À l'heure où l'on établit un parc national dans les Cévennes pour y protéger rapaces et fleurs rares, peut-être faudrait-il songer à protéger aussi les idéus.